Matthieu chapitre 10, on va commencer au verset 5, on va lire jusqu'au verset 18. Notre texte est plus petit que ça, là. On commence au verset 8, mais juste pour se remettre un peu, là, parce que la semaine passée, on a commencé à considérer les premiers versets. La mission apostolique.
C'est quoi, vous dites? Je comprends pas. Ah, OK.
Verset 5.
T'as l'air encore plus Lulu Mopette avec ton foufrou, pompon, comment qu'on appelle ça?
Book.
Ah ben oui, pompon. C'est une affaire de fille, pas comment qu'on appelle ça. Moi quand j'ai quelque chose ce matin, c'est un pompon, ok? Avec une tuque, c'est un pompon. Ah bon. Alors, dites pas ça à quelqu'un, c'est pas gentil de dire à quelqu'un un pompon. Ah on dit ça, il nommé pompon. Fais-tu qu'on dit ça? Non? Non, on dit ça aux pompiers. C'est un pimpon. OK, ça fait rapport. OK, verset 5. Tels sont les 12. Hein, on a vu ça dans des messages précédents, les 12 apôtres, que Jésus envoya. Envoyé, c'est apôtre, c'est ça le sens ici. Après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites « Le royaume des cieux est proche ». Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verge dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. La mission apostolique. On est en plein milieu, on a encore d'autres messages qu'on va considérer. Ce soir, on va considérer les versets, milieu du verset 8 jusqu'au verset 18. Et donc, la semaine passée, on a commencé à considérer ça ensemble, cette mission apostolique. Et j'ai souligné comment c'est un texte bien important, fondamental. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui lance son œuvre à travers ses disciples. Donc, la mission apostolique, c'est les instructions que Jésus a données pour aller. Et on sait que aller, Jésus a dit ça à 5 reprises avant son départ, à la fin de chaque évangile et au début du livre des Actes, avant qu'il monte au ciel, c'est ce qu'il leur a dit. Et Jésus a ainsi dit, pour ainsi dire, posé le fondement avec ses apôtres. Et les apôtres sont le fondement de l'Église et donc on bâtit là-dessus. C'est tout l'édifice spirituel que Dieu est en train de construire. On fait partie du même édifice. Bon, le fondement a été posé par Christ, les apôtres, les prophètes, comme ça dit dans Éphésiens 2:20. Et nous, on bâtit là-dessus. Et c'est un édifice spirituel. Et dans le premier message, sur ce sujet, sur la mission apostolique, la semaine dernière, on a considéré les 3 premiers éléments de cette mission-là, dans les versets 5 ou la moitié du verset 8. Le mandat de la mission, c'est simplement d'aller. Hein? Donc, on a vu ça dans les versets 5 et 6. Ensuite, au verset 7, on a vu le message de la mission, c'est l'évangile du royaume. Allez, puis prêchez que le royaume de Dieu est proche. Et la méthode, c'est quoi? C'est la miséricorde. C'est ce qu'on voit avec les miracles. Dans le fond, c'était de rencontrer les gens dans leurs besoins et les secourir dans leur misère. Et bon, on a donné tous les enseignements là-dessus. On ne va pas revenir là-dessus. Et pour ça que sans tarder, on va regarder maintenant le 4e élément de cette mission apostolique ce soir, qui est toujours aussi important et d'actualité. Vous allez voir, La parole de Dieu ne passe jamais date. D'abord, on a le motif de la mission. Le quatrième élément de la mission apostolique, c'est le motif de la mission. Au début, à la fin, pardon, du verset 8, quand ça dit « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. » Dans ce qu'on vient juste de lire, le Seigneur donne des principes spirituels concernant l'argent. Et c'est une partie bien importante de son œuvre. Je veux dire, Dieu fait avancer son œuvre par des moyens spirituels comme la prière, comme la prédication de la parole, mais l'argent, qui est quelque chose de bien ici-bas sur terre. Et aussi, ça fait partie de comment Dieu fait avancer sa mission, mais il y a évidemment des mises en garde à avoir par rapport au piège de l'amour de l'argent, qui ne doit jamais prendre le dessus sur notre amour pour le Seigneur. Donc, juste ici, quatre choses qui sont dans notre texte. Ici, d'abord, de manière générale, ces versets-là nous montrent que les disciples doivent être au-dessus de tout reproche concernant l'argent. OK? Les disciples du Seigneur doivent être au-dessus de tout reproche concernant l'argent. Vous savez, bon, ça nous dit en 1 Timothée 6, 10, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pas l'argent, mais l'amour de l'argent. Donc, c'est-à-dire, quelques-uns en étant possédés se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. OK? Judas est un mauvais exemple par rapport à l'argent dans la compagnie apostolique. Il a réjoui ses ennemis. Vous savez, hein, quand il est allé, quand on voit comment c'est arrivé, qu'il est allé pour livrer Jésus, ses ennemis se réjouissaient du fait que cet homme a été ami de l'argent plus que Dieu. Dans les qualifications pastorales, dans Tite 1:7, dans 1 Pierre, hein, ça dit que l'évêque ou le pasteur, l'ancien, ne doit pas diriger pour un gain sordide. Okay? Donc, il y a toutes sortes d'avertissements qui sont donnés directement aux anciens qui dirigent l'Église. Et évidemment, ça s'applique aussi à tous les chrétiens parce que les évêques sont un modèle du troupeau. Donc, les chrétiens doivent être au-dessus de tout reproche en ce qui concerne l'argent. Un exemple du Nouveau Testament là-dessus, ce n'était pas un chrétien, mais ça montre bien la question de l'argent. Simon le magicien, dans le livre des Actes, qui voulait, même on appelle ça de la simonie. On va revenir là-dessus dans juste un instant, mais Simon le magicien, qui pour de l'argent, voulait avoir le don de Dieu, le Saint-Esprit, c'est le premier God miracle, tu sais, c'était le début du Miracle Channel avec Simon le magicien. Non, mais c'est vraiment, c'est ça l'idée, hein, beaucoup. Hein. On regarde dans la Bible, puis dans l'Ancien Testament aussi, c'est le même avec Balaam. Les faux enseignants, les faux prophètes sont reconnus pour leur amour de l'argent. OK? Puis on voit dans le Nouveau Testament aussi des loups pernicieux qui vont s'infiltrer là, puis il y a tout le temps beaucoup une question d'argent là-dedans. Jésus-Christ averti contre eux, Paul averti contre eux, c'est ça, dans comme Actes 20 et d'autres passages. Pourquoi? Parce que ces gens-là, au lieu de, comme Jésus, se faire pauvre afin d'en enrichir plusieurs, on fait l'inverse. Ils veulent s'enrichir en appauvrissant les autres. Et Jésus, on sait que c'est littéral, mais aussi physique, évidemment. Jésus s'est donné, s'est vidé, s'est dépouillé lui-même. Et afin qu'on soit enrichi par lui. Mais c'est ça, ces faux docteurs sont à l'inverse de ça. Donc, c'est le premier principe ici par rapport à l'argent. Ensuite, dans la fin du verset 8, quand c'est dit « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement », les ouvriers de l'Évangile donnent l'Évangile gratuitement comme ils l'ont reçu. Ben oui, c'est évident. Ah, t'as peu. Ça, c'est une mise en garde directe contre la simonie. Okay? La simonie, c'est vouloir échanger les services spirituels contre de l'argent. Okay? Ou, tu sais, de monnayer les dons de Dieu, les services de Dieu. D'en faire une business. Pensez-vous que c'était juste du temps de Simon que c'était comme ça? Il y a beaucoup d'avertissements par rapport à ça dans l'évangile, dans les évangiles et dans les épîtres, dans le Nouveau Testament. Mais Ici, l'idée, c'est qu'on ne doit pas charger de l'argent pour le ministère de l'Évangile, dans le sens le plus large du terme. Par exemple, le counseling biblique. Si vous voyez quelqu'un qui, tu sais, c'est pas biblique de charger, tu sais, on voit ça là, des fois. Bon, ici, on a moins au Québec, peut-être au Canada, mais au Québec, pas tant que ça. Peut-être plus dans les milieux plus évangéliques, mais charger de l'argent pour aider quelqu'un dans le Seigneur, puis lui conseillant, puis des fois, de toute façon, c'est pas juste la Bible, aussi, il y a de la psychologie. Il y a d'autres problèmes avec le counseling biblique, là, mais c'est pas biblique. OK? Parce que c'est l'Évangile, c'est... L'Évangile, c'est pas juste prêcher le salut, c'est aussi c'est prêcher Christ, puis si on fait un counseling biblique qui est digne de ce nom, c'est prêcher l'Évangile, on le donne gratuitement parce qu'on l'a reçu gratuitement, n'est-ce pas? OK? Ça, c'est un premier exemple. J'ai déjà vu des cartes d'affaires de pasteurs qui disaient « tarif raisonnable pour des conseils ». C'est pas digne d'un ministre de Jésus-Christ. Ou un autre, une fois où est-ce que quelqu'un, on avait des travaux à faire puis tout ça, puis quelqu'un qui se spécialisait dans un domaine spécifique de la construction, disant, je vais aller t'aider, je vais pas te charger cher. Moi, sans trop savoir puis ça, puis là, ouais, on n'a pas. Quand mon ami, j'ai dit ça, il était choqué. Il dit, voyons donc, il voulait te charger pour. C'est l'œuvre du Seigneur, tu sais. Puis c'était pas l'Évangile, tu sais, c'était pour. Tu sais, c'est un bâtiment puis tout ça. Je veux dire, un bâtiment, ça prêche pas l'Évangile, mais c'est un endroit qui, en tout cas, mais. C'est juste des exemples ici que je donne où est-ce que je pense qu'on doit avoir cette idée qu'on a reçu gratuitement, on doit donner gratuitement. Puis faire confiance au Seigneur qui va s'occuper de nous autres. Parce que, OK, le problème, les exemples que je vais donner, c'est le problème où est-ce que la personne exige de l'argent en retour d'un service spirituel, OK, pour l'œuvre de Dieu. OK, c'est ça vraiment à la base le concept de la simonie et c'est à proscrire. Ceci dit, on comprend, là, puis on va le voir à la fin. Du verset 10, là, ça dit « L'ouvrier mérite sa nourriture », ça dit aussi « Celui qui vit de qui proclame l'Évangile doit vivre de l'Évangile ». OK, c'est toujours valide, on s'entend, mais ça, c'est tout sur l'idée que c'est des dons sur une base volontaire. Ça peut être enseigné que Dieu demande ça, qu'on soit fidèle dans ce qu'on donne au Seigneur, mais on ne peut pas le forcer puis l'exiger, OK? Donc, ça, c'est le deuxième principe. Le troisième sur l'argent, les disciples du Seigneur ont besoin de dépendre de lui pour l'argent. Regardez au verset 9 et le début du verset 10. « Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac de voyage, ni deux tuniques, ni deux souliers, ni bâtons. Donc, il devait partir sans rien. De dos, puis tout ça. Il partait avec le linge qu'il avait sur le dos, finalement. C'était pas mal ça. Afin d'être une démonstration, une illustration de Jéhovah Jireh, du fait que Dieu pourvoit et il s'occupe de ses enfants. Et que pour qu'eux apprennent ça et qu'ils puissent enseigner ça, OK? Ça faisait partie de l'exercice, ça faisait partie de la mission même, OK? Que Dieu est leur soutien. Et vous, c'est encore vrai. Les missionnaires qu'on soutient, là, leur soutien, c'est pas l'argent qu'on leur donne, c'est Dieu qui les soutient. Ça leur donne juste que Dieu se sert de nous autres. Mais c'est Dieu qui les soutient, c'est pas. OK? Puis on prie pour eux autres, mais c'est Dieu qui est leur soutien. Parce que Dieu est personnel. On va vous donner un exemple de ça. Nous, on a la joie et le privilège d'être soutenus pour l'œuvre qu'on fait ici. Et c'est vraiment, c'est un privilège. Et on a expérimenté dans notre députation, puis après, un phénomène vraiment extraordinaire. On s'est rendu compte comment Dieu pourvoit bien au-delà que juste la question de l'argent, justement. Mais il donne littéralement une famille. Puis vous en avez bénéficié ici. Combien de gens qui sont venus ici, qui ont été tellement une bénédiction. Des fois, c'est des prédicateurs. Des fois, ça a été comme des projets de travail. T'sais, des fois, c'est des gens qui parlent. Des fois, c'est des gens avec leurs mains. Puis c'est ce que Dieu nous a donné. C'est Dieu qui fait ça parce que Dieu est personnel. Puis il nous a donné des personnes qui sont avec nous dans l'œuvre de Dieu. C'est tellement plus qu'un chèque dans la poste. Puis il y a des gens qu'on ne voit pas autant. Il y en a qui sont au BC, sont loin, mais... Des temps comme avec ce qu'on a vécu dernièrement, un pasteur qui m'a appelé, puis il m'a encouragé, il dit « Frère, je prie pour toi, puis je sais que c'est pas facile, puis on a fait des temps de prière, puis tout ça, puis ça, mes amis, ça n'a pas de prix, là, c'est vraiment extraordinaire, ça, c'est l'œuvre de Dieu. » Et donc, c'est ça l'idée, c'est on dépend de Dieu dans l'œuvre de Dieu. Et la question, c'est que le souci ne doit pas être par rapport aux choses matérielles. Ah, je veux avoir de l'argent. Non, mais c'est, le souci dans l'œuvre de Dieu, c'est toujours par rapport aux personnes. C'est quoi leur état spirituel? Et certainement, ça s'applique à toutes nos relations. Où est-ce que, tu sais, c'est ça, comme les missionnaires qu'on soutient, puis comment ça va pour avec les gens avec qui ils sont, ici dans l'église, les gens qu'on connaît, OK? Donc, l'argent ne doit pas devenir l'objet de notre dépendance ou de nos soucis, mais vraiment les personnes auprès desquelles Dieu nous appelle. Et le quatrième principe que je vois dans notre dans nos versets ici par rapport à l'argent, comme premier point, là, sur... comment je l'ai appelé mon premier point? Le motif de la mission. L'ouvrier a besoin d'argent pour vivre et mérite son salaire. Et ça dit ici, car l'ouvrier mérite son salaire. OK, bon. Il y a même une place là, que c'est cité dans l'Ancien Testament, c'est le bœuf là, qui moule au grain, il prend part. T'sais, bon, là, c'est, si Dieu ne soucie pas des bœufs, c'est à 1 Corinthiens quand ça parle de ça. Fait que ça balance un peu ici le principe, le premier principe du fait qu'on ne peut pas exiger de l'argent, mais on peut s'attendre que Dieu va s'occuper de nous autres. Si on est appelé, si on est vraiment un ministre de Christ, Dieu va s'occuper de nous autres, puis Dieu va s'occuper à travers les moyens qu'il donne une église locale comme... la nôtre. OK? Et donc, les gens qui sont dans l'Église sont appelés à soutenir l'œuvre de Dieu localement et au-delà, et ça de façon joyeuse et sans contrainte. Comme ça dit dans 2 Corinthiens 9, 7, hein? Puis on l'a même mis, attends, je vais tricher, je vais vous le lire ici, que chacun donne selon qu'il a résolu en son cœur, non à regret, ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je pense que c'est la version Sterbad, ça. Non à regret, en tout cas. Pas bien grave. L'idée, c'est qu'on ne veut pas que la question de l'argent, du matériel, devienne un œuvre, un obstacle à l'œuvre du Seigneur, que ça puisse continuer. On veut soutenir nos missionnaires, ici la famille pastorale, en tenant compte du fait qu'ils puissent, sans souci, puissent continuer à s'occuper de l'œuvre de Dieu. Et je dois dire, l'Église ici s'en occupe bien des deux. Et vraiment, je pense que c'est même au-delà aussi de l'argent, c'est aussi un soutien mutuel. Puis, donc, je remercie le Seigneur pour ça, autant au niveau des missionnaires qu'ici dans l'Église locale. Et... en fait, la façon, tu sais, la question d'argent, c'est un élément important de notre vie, mais aussi de notre vie spirituelle. Je pense que si on est en diapason avec le Seigneur, je veux dire, ça fait partie de la foi, Seigneur, ben oui, je donne pour ton œuvre, parce que c'est ton œuvre, puis je t'aime, puis, OK? Et donc, c'est un reflet de notre relation avec Dieu, puis ça se transmet dans notre relation avec les autres. Les missionnaires qu'on soutient, en tout cas, parce que c'est pas mal tout notre motif, c'est pas juste de l'argent qu'on donne. Ces gens-là, là, on les aime, puis on les a vus pour la plupart. Je pense qu'on les a tous vus en personne, parce que là, il y en a que c'était au début de l'Église, tu sais. Je veux dire que toute l'Église les a toutes vus. Je pense que pas mal, en ce moment, on a vu les presses. Je pense que c'est les derniers qu'on a vus. Ça, j'étais tellement content. Moi non plus, j'avais jamais vu de ma vie, mais en tout cas... Il y a un amour, il y a une relation, il y a un soutien. Et donc, ils méritent leur nourriture, mais on veut bien plus que ça. On veut les encourager, on les aime, on veut prier pour eux autres. Et... Donc, c'est ça ici, toute l'idée. C'est vraiment pas rien qu'une question d'argent et de choses matérielles, mais c'est la relation, ça va bien au-delà. Donc, ça, c'est le motif. OK? Ensuite, on arrive dans les versets 11 à 15, les mesures de la mission. Les mesures de la mission. Verset 11. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Juste ici, je m'arrête. On va y aller verset par verset. Là. L'idée ici de rentrer chez quelqu'un, là, puis bon, vous savez, c'est pas quelque chose qui est... En tout cas, ici en Occident, peut-être dans un village dans le fond, puis tout ça... Mais c'est pas une pratique courante. Mais en Orient, à l'époque du Nouveau Testament, peut-être que même celle-là encore dans certains pays, c'était... En fait, ça, on se rappelle, c'est une culture de honte et d'honneur. Ça aurait été une honte De pas honorer comme ça un étranger qui vient. Puis en plus, les gens aimaient ça parler de religion. Ah, t'as une religion étrangère, toi. Nous, on adore ce Dieu-là. Puis ça. Parle-moi de ton Dieu, toi. Tu sais, c'était normal. Puis les gens venaient puis ils parlaient, OK? Donc, c'est ça ici. C'est dans ce contexte-là que Jésus parle. Et vraiment, ici, on doit voir que l'idée, au-delà là, de la culture, là, puis de ce qui était vécu à l'époque, on est appelé à rentrer dans le travail de Dieu. Là où Dieu est en train de travailler, on rentre là-dedans parce que Dieu veut qu'on réponde à ce que lui est en train de faire. On arrive dans une ville, il fait quelque chose, on répond à ça. On rentre là-dedans. OK? Vraiment ici, quand on voit, bon, Jésus, il dit, si quelqu'un en est digne, si s'il trouve quelqu'un digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Donc, s'il parle de dignité, OK? Digne de nous recevoir, c'est quoi l'idée? C'est pas tous ceux à qui on parle, on rentre en contact, qui valent la peine de passer du temps à parler parce que des fois, ça mène nulle part. C'est pas parce qu'on les aime pas, pas parce qu'on les rejette, c'est parce qu'eux autres rejettent le message, puis eux autres... Fait qu'ici, quand ils parlent de digne, tout le monde est indigne, premièrement, OK? Qui est digne de Dieu? Mais l'idée, c'est qu'ils se montrent pas comme... On arrive avec un message du grand roi, puis s'ils le rejettent, ben là, c'est eux-mêmes qui se montrent indignes de cet honneur qu'ils ont d'entendre parler de l'Évangile, OK? Donc... C'est pas qu'on les aime pas, c'est pas qu'on les rejette pour toujours, mais c'est pas là qu'on va s'investir, c'est pas là qu'on va passer le plus gros de notre temps, OK? Puis même des fois, il y a quelque chose par rapport à ça. Même, des fois, on parle à des gens, puis il faut faire attention de ne pas s'égarer à des sujets qui nous égarent loin de l'Évangile. Même des fois, ça peut être des bons sujets. Tu sais, on apprend, vous savez, c'est quoi l'apologétique, la défense de la foi? C'est l'idée de pouvoir amener logiquement, raisonnablement, même scientifiquement, des faits qui prouvent que la Bible est digne de confiance, OK? Par exemple, quand on parle d'évolution versus la création, ou les religions du monde versus le christianisme biblique. Bon, la politique, ça, c'est vraiment un piège, là, parce que je sais pas comment... mais tu sais, ou même des questions comme l'avortement, tu sais... c'est pas biblique l'avortement, puis disons, Dieu est le créateur de la vie. Ça peut être des bons sujets desquels on parle, mais ces sujets-là doivent être confrontés avec une bonne apologétique, mais il faut les voir plus comme des obstacles à surmonter afin d'arriver à l'essentiel qui est l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est ça que le Saint-Esprit utilise pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. OK? Donc l'idée. On surmonte les obstacles pour arriver sur le plateau, le high ground. Tu sais, dans une guerre, celui qui a le dessus, là, ou même dans un combat élevé, quand tu as le dessus, c'est toi qui as l'avantage. Mais on veut arriver comme ça, tu sais, les obstacles comme ça qui peuvent y avoir, c'est pas qu'on n'en parle pas, mais on veut arriver au plateau de l'avantage que nous donne l'Évangile. Parce que ça, c'est ça qui transperce les cœurs. C'est ça qui fait la différence. Ça amène les yeux sur l'éternité, puis sur le grand roi, sur le sauveur. OK? Donc ici, le principe, l'idée, c'est concentrons-nous sur ceux qui sont réceptifs, ceux pour qui travaillent, et restons focussés. Ça, je pense que c'est un angliciste, là, mais c'est pas grave, je vous le dis, vous comprenez. Restons focussés sur l'Évangile avec eux autres. Donc, on se concentre sur ceux dans qui travaillent. Pas qu'on rejette les autres, mais on se concentre sur eux. Puis, on reste l'attention sur l'Évangile. Je pense que ça va dans le sens aussi de ce que j'ai partagé. Je peux vous rappeler, la semaine passée, j'ai cité Pasteur Brassard, qui disait que le but premier de l'Église, c'était pas premièrement d'attirer des foules, n'est-ce pas? Mais de former des disciples. Donc, au lieu d'aller avec la quantité, puis dire j'ai parlé à 28 personnes aujourd'hui, il faut y aller avec la qualité de s'investir dans ceux chez qui Dieu travaille. Puis on le reconnaît, il y a même, pasteur Van Gelderen a prêché un bon message là-dessus, John Van Gelderen, puis il dit, il y a un homme qui témoigne beaucoup, mais il prie, Seigneur, dirige-moi vers ceux dans qui tu travailles. C'est une prière biblique, on peut prier ça, là. On a le droit, là, parce que c'est ce que Dieu fait de toute façon, OK? On dit, Dieu, dirige-moi vers eux autres, OK? Ça sonne calviniste, c'est pas grave. C'est biblique, OK? Parce que Dieu travaille-tu dans les cœurs? Oui, puis il y en a qui est vraiment à l'œuvre, mais Dieu dirige-moi vers eux autres. OK? J'étais où donc? Je me suis moi-même distrait avec mon commentaire.
La maison digne.
Hein? Oui, la maison digne, puis tout ça, oui, OK. Et donc, on a ici des principes, l'idée, c'est ça. Puis là, ça dit, en entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Donc ici, c'est ça l'idée, c'est vraiment d'amener le message de paix. Ici, quand on parle de paix, c'est la paix avec Dieu, la paix de l'Évangile. Et vraiment, je pense que... OK, ah, c'est ça aussi avec ce que je dis avec le pasteur qui disait que une église, c'est pas l'idée de la quantité, puis OK, une usine à chrétiens. Quand on a une mentalité d'usine puis de quantité, ça va donner beaucoup de faux chrétiens. C'est mieux la qualité, la réalité de la conversion. Les gens qui vraiment passent de la lumière, des ténèbres à la lumière. Et mes amis, ce gars, plus je suis ce principe-là, ces mesures ici de la mission du Seigneur, plus le Seigneur bénit de façon solide, parce que c'est selon sa sagesse, selon comment lui il marche. Je vous le dis personnellement, avec, je pense à des personnes que le Seigneur m'a donné le privilège soit de conduire au Seigneur, puis des fois il avait été conduit au Seigneur déjà par quelqu'un d'autre, mais de pouvoir m'investir en eux pour former des formations de disciples, alors que le Saint-Esprit formait Christ en eux. La différence entre juste parler de quelqu'un de toutes sortes de choses puis tout ça, versus s'investir dans cette personne, prêcher Christ, il y a une grosse différence. J'ai vu la différence dans le temps et vraiment, c'est ça. Puis par rapport au verset, OK, 14 et 15, ça dit, lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on ne vous écoutera pas, qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Pensez, on peut tirer la leçon suivante de ça. Okay? Vous pouvez bien, ça vous tente, enlever la poussière de vos pieds. Là. Les gens vont trouver ça drôle. Vous allez peut-être attirer l'attention. Là. Évidemment, ici, c'est une pratique encore qui était à l'époque, mais il y a la signification du geste ici. La mesure que le Seigneur veut qu'on prenne ici, c'est les avertir. Et ne mettez pas tant l'accent sur le fait que Dieu les aime, mais le fait qu'ils rejettent l'amour de Dieu. Parce que si vous êtes juste, Dieu vous aime, Dieu vous aime, ils vont pas voir que c'est... Ils offensent Dieu en rejetant cet amour. C'est ça ici l'idée. Tu sais, ça parle du jugement, puis ça donne... Il faut que les gens sachent que si on vient avec l'Évangile et qu'on leur présente, il y a une conséquence à le rejeter. Oui, Dieu les aime, mais s'ils rejettent l'amour de Dieu, c'est grave. Parce qu'ils l'ont eu, ils ont entendu l'amour de Dieu, puis ils ont décidé de le rejeter. C'est ça ici. C'est important pour nous, comme chrétiens, qu'on comprenne ça. OK? Puis je pense que c'est ça l'idée aussi de l'expression, là, la paix qui reste, qui retourne dans la maison. Là. Puis, évidemment, on doit toujours dire ça dans l'amour. On ne choque pas après le monde, là, on ne chante pas des bêtises, on a de la compassion. Mais ça prend la fermeté de l'avertissement. Comme les prophètes de l'Ancien Testament, hein, Jérémie qui le disait en pleurant, mais il disait, « Hey, retournez à l'Éternel, vous rejetez l'Éternel, vous êtes avec des... » Puis il ne mangeait pas ses mots pour dire qu'il rejetait Dieu. Il les aimait, mais il leur disait la vérité fermement, OK? Sur le jugement qui les attendait, OK? Et le verset 15, on peut faire le parallèle avec, si ça parle de Sodome et Gomorre du jugement, on peut dire aux gens, il n'est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et le Saint-Esprit va se servir de ça, parce que le Saint-Esprit convainc de quoi? De péché, de justice et de jugement. Il faut que les gens l'entendent pour qu'ils en soient saisis par le Saint-Esprit. Et Jésus le dit, hein, si quelqu'un a le Fils, il a la vie. S'il n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Il ne faut pas qu'on ait peur de prêcher ça. C'est les avertissements solennels de rejeter l'amour de Dieu. Et évidemment, si on est réaliste, par contre, si on prêche évidemment l'Évangile, il faut s'attendre pour avoir des réactions. Des réactions réfractaires. Si on est fidèle, à prendre les mesures qu'on a vues là, hein, à prêcher l'évangile tel qu'il est, puis tout ça, le message de Dieu, ben, ça va nous amener au sixième élément, le deuxième ce soir, mais en fait, depuis le début qu'on considère ça. Non, excusez, c'est le troisième ce soir. La menace de la mission. La menace de la mission. Regardez versets 16 à 18. « Voici, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront au tribunal et ils vous battront de verge dans leur synagogue. Et vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. » Au verset 16, hein, on avait déjà vu ce verset-là. Simple. Prudent comme des serpents, simple comme des colombes. On est envoyé comme des brebis parmi les loups. On avait vu ça. Bon, il a fallu que je cherche dans mes archives, là, mais le 7 juin au matin. Je ne m'en rappelais plus, là, mais sûrement vous autres non plus. Mais j'avais parlé de ce verset-là à ce moment-là. Et j'avais rappelé à ce moment-là, j'avais dit par rapport à ce verset-là, le verset 16, que Jésus a donné ce mandat-là, allez, hein, comme des brebis parmi les loups. Quelqu'un qui dit va comme une brebis parmi les loups, c'est pas sécurisant. Là. Quand on comprend, là, c'est comme vas-y comme quelqu'un qui va aller mourir. Finalement, c'est pas mal ça. Là. Puis Jésus, d'ailleurs, il gênait pas à utiliser des expressions. Mais quand il dit que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix puis qu'il me suive. C'est un instrument de mort, la croix. Là. À l'époque que Jésus parle, c'est pas quelque chose dans le cou. Là. Fait que, tu sais, Jésus qui prend des images, il dit « Wow, tu es vraiment sûr? » Nous, on parle d'avoir peur, de la menace puis de ça. Jésus, il essaie pas, on dit en anglais, de « sugarcoat ». Il essaie pas d'embellir les choses. Il mettait les choses telles qu'elles. Vraiment comme des brebis parmi les loups. C'est notre mandat. On va dans ces conditions-là. OK? Sachant qu'il y a un danger, Jésus savait, on le sait, il y a un danger réel et imminent. Et même si on prêche le royaume qui est proche, hein, on a vu ça au verset 7, il les a quand même envoyés, parce que le but de sa mission, c'est pas qu'on soit confortable, c'est pas l'aisance, c'est pas la facilité, mais c'est sa gloire. Et si Dieu veut que certains meurent, certains soient emprisonnés, amenés devant les gouverneurs ici, comme ça dit, mais qui prêche Christ, il va avoir accompli la mission. Parce qu'on est ses témoins, on est ses envoyés qui lui servent de témoins. On va parler du mot témoin dans un instant. Je ne vais pas me devancer dans le texte, mais le but de la mission, c'est sa gloire. En étant fidèle envers et contre tous. Peu importe ce qui arrive. Savez-vous, ce n'est pas négociable, ça. C'est Dieu qui décide ce qu'il nous envoie. Nous, notre part, c'est juste de lui être fidèle puis prêcher son message. N'est-ce pas d'actualité, n'est-ce pas? Je veux dire, même si... Si on pense bibliquement, là, on dit « Ah, mais là, c'est parce qu'on est habitué de penser de façon pragmatique. Ah, mais là, s'il arrive ci, s'il arrive ça, puis... » Non, on va faire confiance, on va être fidèle à ce que Dieu nous dit clairement dans sa parole, puis on va y faire confiance pour le reste. Il arrivera ce que Dieu veut qu'il arrive. On va-tu être amené devant des gouverneurs? Tu sais? Je sais pas. C'est pourquoi j'espère que non, j'espère que tout va être cool, calm and connected, OK? Mais on sait pas, puis on va faire confiance à Dieu. Notre part, ce que ce verset 16 nous communique, c'est qu'on doit être sans malice. On ne doit pas faire le mal, mais on doit ou rendre le mal pour le mal, mais on doit au contraire surmonter le mal par le bien. C'est ça l'idée. Hein? Non seulement on est envoyé comme des brebis parmi les loups, mais on est prudent comme des serpents, simple comme des colombes. Et... pour y arriver, Dieu utilise la souffrance. Et Dieu, regardez historiquement, regardez bibliquement, Dieu utilise la souffrance pour l'avancement de l'Évangile, pour l'avancement de sa cause. Puis c'est très efficace. Regardez à travers l'histoire, les explosions de l'Évangile, les endroits où est-ce que ça l'avance le plus, c'est là où il y avait le plus d'opposition puis de souffrance. C'est un fait historique. N'est-ce pas? C'est pas l'endroit où c'était le confort puis la culturisation de la chrétienté. Ça l'a donné l'inverse quand c'était des contextes comme ça. Puis on le voit, nous, c'est ce qu'on est habitué de vivre. Mais Dieu, il veut nous sortir de ça dans sa bonté. Et donc, on doit voir, hein, lorsque Dieu permet la souffrance, on doit voir ça comme une grâce de Dieu envers ses enfants. qui manifeste au monde qui il est. Et mes amis, ça, c'est une des choses les plus attractives. Attractive? Attirante. Ben oui! Merci, Kevin. Les plus attirantes. Parce que c'est un puissant témoignage de la vie de Jésus-Christ dans ses enfants. Et c'est ça. Puis avec cette sagesse et cette prudence, ça va nous faire passer à travers des obstacles, des choses qui peuvent arriver. Et avec la simplicité, on n'a pas la malice. Et donc, ça va court-circuiter la méchanceté, la rébellion. Un exemple important par rapport à ça. Vous savez, on voit de plus en plus des mesures qui sont, on y parlait un petit peu un matin, des mesures contraignantes, tannantes, puis ça peut devenir un piège à un moment donné de cette année, puis de dire, faisons attention de ne pas tomber dans un zèle amer et un esprit de dispute, là où il y a toutes sortes de mal, comment ça dit donc, dans Jacques 3, Jacques 3, 14 à 16. Attention à cette sagesse d'en bas, qui est charnelle, terrestre, diabolique. Ah, ça marche pas, puis tout ça. Non, la sagesse de Dieu, le genre d'arme avec lequel le peuple de Dieu vainque dans des circonstances comme les nôtres, c'est pas d'aller dans les rues, c'est pas de protester, c'est la sagesse qui vient d'en haut, qui est premièrement... OK, je vais vous le lire, là, parce que... Je veux pas dire n'importe quoi. OK. Donc, c'est pas d'avoir cette sagesse qui est d'en bas, OK, avec un zèle amer puis un esprit de dispute, OK. Là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. On doit se garder à tout prix de tomber là-dedans. OK, et les chrétiens ne devraient pas s'associer à ce genre de mouvement. Pourquoi? Parce que la sagesse qui vient d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de parler, puis non, on a le droit de parler, mais on doit le faire comme étant, comme on le voit au verset 16, prudent comme des serpents, sain comme des colombes, sans malice, avoir le bon esprit qui nous anime. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de notre Seigneur, c'est lui qu'on veut magnifier, c'est lui qu'on veut présenter au monde, c'est lui qu'on veut communiquer. OK? Et je termine avec les deux derniers versets de notre texte qui nous met en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Si Dieu décide d'envoyer plus de persécutions, puis ça va jusque-là, c'est lui qui décide. OK? Ah, c'est lui qui va décider ce qu'il veut nous enlever, c'est ce qu'on a besoin, et c'est quand il va venir nous enlever. Puis, il faut juste qu'on y fasse confiance. On ne peut pas éviter ce que Dieu décide de nous envoyer, mais on peut éviter d'y faire honte lorsqu'on est confronté à la persécution. Et qu'est-ce qui ferait honte? Si on a honte de lui. Et remarquez ici que le but de tout ça, c'est d'être des témoins. C'est pas par rapport à nous. Ça, je veux juste dire un mot là-dessus. On entend beaucoup, on va être des bons témoignages pour le Seigneur. On entend ça beaucoup, n'est-ce pas? Mais souvent, on entend ça avec la pensée. On va se cacher dans notre coin, on va pas dire rien. On va pas se tenir pour Christ pour être un bon témoignage pour le Seigneur. Pour être un bon témoignage pour le Seigneur, il faut mettre le Seigneur à l'avant-plan. Si c'est le raisonnement humain, le pragmatisme, la pensée humaine, on n'est pas un bon témoignage pour le Seigneur, on essaie de sauver notre peau, puis on est un bon témoignage pour nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a à présenter aux gens quand on dit qu'on est un bon témoignage pour le Seigneur? On dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mon Seigneur est tellement grand, tellement digne, que non seulement je suis prêt à vivre pour lui, mais je suis prêt à mourir pour lui, puis il est tellement précieux que... Puis son peuple est tellement précieux que je suis prêt à courir des risques pour lui, puis... Savez-vous quoi? Si à cause de lui, il faut que j'aille devant les tribunaux, soit battu, devant des gouverneurs, devant des rois, ça ne me dérange pas parce que je suis un témoin de Jésus-Christ et je veux lui rester fidèle jusqu'au bout. Ça, c'est l'esprit derrière le mot témoin. C'est quoi le mot témoin ici? Si on parlait grec, c'est quoi qu'on dirait, Dave? Martyr. Puis là, en roumain, c'est le mot aussi qu'ils prennent. Ils ont pris littéralement. Je sais pas, une translittération. Mais même dans la langue roumaine, hein, quand on dit donner témoignage, on dit le mot martyr, hein, qu'est-ce que ça me semble, c'est ça? Le son de Romain 101, c'est-tu ça? Ouais. T'aimes ça quand je te mets sur le support de même dans un message, hein? À mon regard avec une face, là. Toi, là. Témoin. Le mot martyr. OK? À travers l'histoire, les martyrs de Jésus-Christ, les témoins de Jésus-Christ, ont servi de puissants témoignages efficaces de son message, de sa vie, de sa grâce. Et voici la pensée avec laquelle je veux terminer ce soir. C'est la meilleure façon de terminer en tant qu'enfant de Dieu. Tu sais, s'il y a une façon qu'il faut qu'on termine, là, bon, OK, si on est tout enlevé, tant mieux. Gloire à Dieu, alléluia. Mais si le Seigneur décide que ça, il retarde encore sa venue, puis il n'y a pas de honte, puis là, c'est pas parce qu'on est des djihadistes, là, mais si on a à mourir, à souffrir pour le Seigneur, c'est un honneur. Regardez dans le livre des Actes, c'est un honneur parce que on est témoin de qui on peut dire au monde, voici, ça c'est mon Seigneur, il est tellement bon, il est tellement grand, il est tellement fidèle, je suis prêt à y faire confiance jusqu'au bout. C'est ça l'idée de martyr, de témoignage. C'est pas par rapport à nous, c'est pour rendre témoignage de la grandeur, de la fidélité de notre Dieu. Et ça, mes amis, il y a quelque chose de puissant là-dedans. Pourquoi? Ça glorifie vraiment notre Seigneur parce que ça le manifeste d'une façon bien particulière, parce que c'est son caractère même. Christ est venu comme un martyr, comme un témoin. Il témoignait constamment du Père. La croix témoigne de son amour au monde. Christ était l'ultime témoin. Martyr. Et donc, quand on passe par les mêmes voies, on glorifie celui qui a tracé le chemin devant nous. Donc, on a besoin d'avoir aucune crainte face à la menace de la mission. Il y a une menace. Ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Il faut s'attendre à ça. On peut même l'anticiper. Mais par la foi qui triomphe de la peur, qui triomphe du monde, hein? Votre victoire sur le monde, c'est votre foi. On avance malgré tout. Vous savez quoi? C'est pas dans notre chair. C'est pas dans notre nature humaine. Voilà pourquoi, après que j'ai prié, je vous encourage à mettre ça devant le Seigneur. Seigneur, qu'on soit des fidèles témoins jusqu'au bout. Par ta grâce, c'est pas dans moi. J'ai des peurs, mais toi, Seigneur, tu vaux la peine que j'aille jusqu'au bout pour toi. Merci, Seigneur, pour ta mission. Tu as envoyé tes disciples avec des instructions et tu nous les donnes encore en 2020 les mêmes. Oui, on est envoyé comme des brebis parmi les loups. Ah, mais on va pas comme on l'a vu ce matin, dans ton royaume, ça marche pas comme dans le royaume d'ici-bas. On va pas comme le monde va. Non, on s'en va avec la prudence du serpent et la simplicité de la colombe, sans malice. Parce que Seigneur, on te fait confiance que tu es plus grand que celui qui est dans le monde. Qu'on va avoir des tribulations dans le monde, mais on prend courage, Seigneur, parce que tu as vaincu le monde. Alors on vient à toi, Seigneur, dans notre faiblesse. On veut être tes témoins. On désire te glorifier dans ce que toi, tu décides de nous envoyer. Simplement, Seigneur, soutiens notre foi. J'irai où tu voudras, mais soutiens ma foi. Seigneur, on s'attend à toi. Merci que tu as prié pour Pierre, qui avait été réclamé par Satan pour être criblé comme le froment, mais tu avais prié afin que sa foi ne défaille point. Ah, Seigneur, merci que tu intercèdes pour nous auprès du Père même en ce moment, pour que notre foi ne défaille point. Dans ces temps difficiles, mais on te remercie, Seigneur, que tu es suffisant. Tu es le Dieu qui pourvoit. On te remercie pour ça. Béni soit ton nom, le nom merveilleux de Jésus dans lequel on te prie. Amen. Amen. Et on prend juste un